Simon pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Les Régors, chaque semaine sur les collègues Garrigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Et deux précisions concernant mon livre. D'abord, c'est que je l'ai conçu avant tout comme un outil militant. J'espère qu'il alimentera une réflexion sur les luttes contre l'exploitation capitaliste, contre l'oppression patriarcale. Ces luttes sont pour moi toujours à mener, et toujours à mener de pair. D'autre part, ma critique des théories postmodernes est dirigée contre des idées que je considère comme nuisibles au combat pour l'émancipation sociale. Elles ne visent pas des personnes, parce que pour moi, tout individu doit être libre de faire ce qu'il et elle veut de son corps, être libre d'en disposer, que ce soit pour le parer, le dévoiler, le cacher ou le transformer. Alors, mon projet d'écrire ce livre est parti de deux constats. D'une part, ce que représente aujourd'hui le féminisme dans la vie publique, ça va mieux, au niveau national comme international. Et d'autre part, les effets de ce que j'appelle les leurres postmodernes sur la lutte antipatriarcale et anticapitaliste. En matière de féminisme, ces leurres postmodernes sont principalement les analyses intersectionnelles et la théorie queer. Alors, j'avais abordé ces questions dans mon précédent livre, « Où va le féminisme ?». Et ici, je les approfondis et je critique plus particulièrement la théorie queer parce qu'elle est, à mon avis, la plus problématique. Par son allure subversive, elle attire la jeunesse qui fréquente l'université, mais elle est loin d'être subversive pour moi. Alors, concernant le féminisme actuel, on peut dire que c'est un thème en vogue dans de très nombreux pays. Il n'a jamais été aussi bien vu. Il est vanté dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais aussi par des gouvernants qui lui consacrent des ministères ou des secrétariats d'État aux droits des femmes. Et puis il est aussi vanté par des instances internationales. En France, le féminisme s'est ainsi institutionnalisé et des études de genre y sont apparues à l'université en 82. Avec pour résultat qu'il faut avoir un bon niveau enseignement supérieur pour arriver à saisir plus ou moins les discours féministes actuels. Le succès de la thématique féministe auprès des élites politiques et universitaires pourrait paraître assez louche, a priori. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas un hasard si les questions de genre figurent parmi leurs sujets de prédilection. Parce que ces élites savent bien que les fondements profondément inégalitaires de la société en seront confortés. Et ça, c'est parce que le féminisme d'aujourd'hui est intégrateur. Il reflète les valeurs et les aspirations de femmes qui appartiennent souvent aux classes moyennes. Or, les gouvernants de droite comme de gauche s'appuient sur ces classes qui valorisent l'individu et qui veulent en général consommer en paix dans la société existante plutôt que de la remettre en question. Le courant féministe dominant demande à l'État d'intervenir afin que disparaissent non pas les inégalités sociales, mais les inégalités salariales, professionnelles entre hommes et femmes. Et il lui demande que soient davantage réprimées les violences masculines faites aux femmes. Ce sont des revendications que les tenants de l'ordre établi peuvent entendre. Ils intègrent déjà des femmes dans les hautes instances économiques et politiques et ils aiment mieux prendre en charge des victimes plutôt qu'avoir affaire à un mouvement contestant leur autorité. Qui plus est, le courant féministe dominant est assez indifférent à la situation des femmes des classes populaires. Consciemment ou non, nombre de féministes considèrent que ces femmes doivent rester là où elles sont. Mon second constat, qui concerne ce que j'appelle les leurres féministes et leurs effets, c'est que ces théories issues de l'université américaine tendent depuis plusieurs décennies à faire oublier l'exploitation capitaliste en occultant l'existence de classes sociales aux intérêts antagoniques. Donc ces théories conviennent très bien au système capitaliste. Grâce à elles, de nouveaux marchés s'ouvrent sans cesse, qui sont censés permettre à des minorités, toujours plus nombreuses, d'affirmer et de mettre en relief leur identité par l'acquisition de produits spécifiques. De plus, les théories postmodernes sur le genre ont créé en France comme ailleurs de fortes dissensions entre les groupes féministes sur certains sujets. Le voile, la prostitution et surtout la définition d'une femme issue de la théorie queer, à savoir on est une femme parce qu'on se sent femme. Les groupes féministes actuels sont assez nombreux et divers. Néanmoins, on peut les regrouper en deux courants principaux qui sont fortement opposés sur le plan idéologique. Il y a un courant postmoderne, intersectionnel et ou queer, et un courant universaliste de gauche, héritier du féminisme matérialiste des années 70. Au sein du mouvement de libération des femmes, le MLF donc, ce féminisme matérialiste était représenté par les féministes radicales et par les féministes lutte de classe. Alors, les analyses intersectionnelles et la théorie queer se sont diffusées tardivement en France, d'une part parce que les ouvrages qui les présentent ont été traduits avec retard, et d'autre part parce qu'un fort courant universaliste et féministe matérialiste leur a fait barrage jusqu'au début de l'an 2000. Mais à présent, ces théories se diffusent largement sur la place publique dans une version vulgarisée par les médias et les réseaux sociaux. Et de ce fait, le courant féministe matérialiste est de plus en plus minoritaire dans l'espace public, tandis que les attaques contre lui gagnent en violence. Ça, dans les pays anglo-saxons, ça existait déjà. Des féministes radicales se font traiter depuis des années de racistes, transphobes, réac ou TERF, c'est-à-dire l'acronyme qui signifie que des féministes radicales excluent les trans. On les adresse verbalement, voire physiquement. Et ces pratiques-là, elles sont arrivées en France. Il y a des transactivistes, autres activistes queer, qui s'emploient à empêcher des militantes féministes, qui sont en général de gauche, d'extrême gauche ou libertaires, de s'exprimer. Plus largement, les thèses postmodernes fractionnent les partis et syndicats censés représenter le camp du changement sur la question du genre, et sans doute plus encore sur la question de la race, avec les thèses racialisatrices. La gauche, l'extrême gauche, les écologistes et radicaux ont en effet adhéré pour partie au discours postmoderne sur ces questions. Mais en fait, on trouve certains discours postmodernes tant chez des opposants supposés à l'ordre établi que chez des défenseurs de cet ordre. De plus en plus d'États intègrent ainsi dans leur législation une autodéclaration de genre qui doit beaucoup à la théorie queer. Or, la théorie queer fait perdre de vue à la fois l'origine de l'oppression féminine et ce que j'appelle la réalité sociale des femmes. Cette réalité, c'est le fait que non seulement en France, mais à l'échelle de la planète, les classes populaires sont en majorité composées de femmes, que la plupart des femmes connaissent toujours une double journée de travail et que la condition des femmes risque de se dégrader si elles perdent des droits gagnés de haute lutte, comme l'accès à l'IVG, et s'il se développe des pratiques telles que la GPA, ce commerce de la gestation pour autrui dans lequel des femmes pauvres portent un bébé pour une clientèle riche. Enfin, parallèlement, on note que dans les classes populaires, il y a un dégoût croissant à l'égard du système en place, mais aussi une désaffection à l'égard d'une gauche qui les a déçus. Et ce dégoût, cette désaffection, pousse une fraction grandissante de ces classes soit à s'abstenir de voter, soit à voter pour l'extrême droite. Or, ce vote pour l'extrême droite incite les militants et militantes de la gauche au sens large à se préoccuper davantage encore des minorités que des classes populaires. Et aux élections présidentielles, à soutenir n'importe quel candidat se posant en défenseur de la démocratie contre le fascisme. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron est arrivé à se faire élire et réélire président de la République, malgré son impopularité. Et on a récemment pu apprécier, avec le vote de la loi immigration, son degré d'opposition au Rassemblement national et à ses idées. Bref, c'est toutes ces constatations qui m'ont incité à examiner les théories postmodernes, pour voir comment on pourrait les dépasser dans une optique clairement anticapitaliste et antipatriarcale. Du coup, mon exposé comprendra quatre parties. Un rappel historique du féminisme récent en France, une présentation critique des théories postmodernes sur le genre, l'examen des conséquences de ces théories sur la lutte anticapitaliste et antipatriarcale, et puis j'essaierai de suggérer quelques pistes pouvant contribuer à relancer cette lutte. Alors d'abord, pour montrer l'évolution des discours féministes dans la société française, je vais rappeler les positions que le MLF a défendues dans les années 70, et puis je résumerai les raisons du changement qui est intervenu dans le féminisme au cours des années 80 et 90. L'après-68 a produit de nombreuses mobilisations, en particulier celle du MLF et celle des homos, qui contestaient à la fois le rôle social assigné par le patriarcat aux femmes et aux hommes sur la base de leur sexe biologique respectif et le refus de l'hétérosexualité comme une norme. Ces mouvements ont revendiqué le droit à disposer de son corps et à vivre la sexualité de son choix. C'est ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Des femmes qui appartenaient à toutes les classes sociales se sont mises en mouvement pour obtenir l'accès à la contraception, à l'avortement. Mais le MLF était aussi profondément anti-autoritaire dans son esprit comme dans son mode de fonctionnement. Et la libération sexuelle revendiquée sapait les fondements même de l'ordre patriarcal à travers la contestation de ces institutions. L'idée qu'on distingue les hommes des femmes par leur sexe biologique était alors une évidence. Il y a 50 ans, déclarer qu'on est une femme parce qu'on se sent femme aurait suscité un ahurissement et une forte hilarité en France comme ailleurs dans le monde, en fait, ainsi que de la colère chez les féministes. Chez les hommes, le refus des codes de la virilité était à l'époque le fait de ce qu'on appelait les folles, et qui s'appelait comme ça aussi, les travestis, les transsexuels. Et ce refus était réprimé par la police et la justice. Les folles et les travestis se donnaient l'image de la féminité, celle qu'on attend des femmes, les talons aiguilles, le maquillage, une attitude aguicheuse, voilà. Les transsexuels, qui étaient très peu nombreux, ils entreprenaient de modifier leur corps lui-même par des interventions chirurgicales. Mais si les folles, les travestis et les transsexuels se rêvaient en femmes, ils ne revendiquaient pas être des femmes. Et de même, les hommes solidaires du MLF ne prétendaient pas faire partie de ce mouvement. Les groupes femmes du MLF étaient non mixtes, même si des hommes participaient à ces manifestations. En gros, dans cet après-68, où pas mal de gens rêvaient d'un autre monde, le discours féministe assez répandu était le suivant. Le patriarcat, c'est le système d'oppression qui assoit la domination des hommes sur les femmes dans tous les secteurs de la société par le biais de diverses institutions, en particulier la famille et l'école. Cette oppression concerne toutes les femmes, quelle que soit leur classe sociale. Les hommes et les femmes constituent les deux catégories composant la société humaine, et ces catégories se distinguent par leur sexe biologique. C'est à partir de lui que le système patriarcal établit une hiérarchie au profit des hommes au détriment des femmes, et c'est à partir de lui qu'est inculqué aux femmes un rôle social spécifique, qu'on appelait alors sexe social, qui deviendra genre dans les années 80 pour correspondre au gender américain. Ce rôle social, il est imposé aux femmes par un complet conditionnement exercé dès la naissance, avec l'injonction à avoir des enfants, et on apprend de même aux garçons à être de vrais hommes bien virils. Les femmes sont ainsi assignées à la sphère privée, car il s'agit pour le système patriarcal de contrôler à la fois leur sexualité et leur capacité procréative, effective ou potentielle. Et les femmes ont à charge l'élevage des enfants et les tâches domestiques, tandis que les hommes occupent la sphère publique. Le capitalisme, lui, c'est le système d'exploitation économique par lequel la bourgeoisie, classe détentrice des moyens de production, exploite le prolétariat, ceux et celles qui ont juste leur force de travail à vendre. Le capitalisme est postérieur au patriarcat, mais il est lié à lui, particulièrement parce que l'organisation patriarcale de la société sert les intérêts des capitalistes en leur offrant une reproduction gratuite de la force de travail, du fait que les tâches ménagères ne sont pas rémunérées. Au XIXe siècle, la bourgeoisie a imposé au prolétariat son modèle de la famille, dans lequel les femmes sont mariées, souvent par des arrangements entre familles, et restent à la maison. Et ce modèle correspond donc aux intérêts particuliers de la classe qui possède du bien. Il permet la transmission de la propriété privée d'une génération à l'autre. Avec la révolution industrielle, cependant, les femmes sont massivement entrées dans le salariat en travaillant en général à l'extérieur de leur foyer. Mais le rôle qui est attendu d'elles dans la sphère privée n'a pas changé. La plupart des femmes font donc toujours une double journée de travail pour assurer à la fois la reproduction sociale et une bonne part de la production. De ce fait, la libération des femmes passe forcément par la disparition des rôles sociaux hiérarchisés, ce qui implique de mener un combat spécifique contre la domination masculine. Donc, En s'attaquant aux rôles sociaux, les femmes des années 70 ont pris en main leur destin. Elles sont devenues actrices de leur vie. Elles étaient fières d'être des femmes, alors que le système en place les dévalorisait. Il y avait un slogan de l'époque qui résumait la nécessité d'un double combat antipatriarcal, anticapitaliste. Pas de révolution sociale sans libération des femmes, pas de libération des femmes sans révolution sociale. Il y avait une variante, pas de socialisme, mais bon. Mais au cours des décennies suivantes, il y a un gros changement qui est intervenu dans le discours féministe parce qu'il y a eu en France une profonde régression sociale et idéologique. Et les raisons de cette régression, elles sont multiples. Il y a eu la fin des Trente Glorieuses, donc cette période de croissance économique exceptionnelle de 45 à 75, qui a entraîné une montée du chômage et de la précarité. La social-démocratie est arrivée au pouvoir en 81 avec Mitterrand, mais le PS a accompagné les restructurations et les délocalisations dans l'industrie, qui a entraîné bien des désillusions à son égard. Des bastions ouvriers ont disparu, la conscience ouvrière a décliné. Et de plus, toutes les fois que la gauche est revenue ensuite au gouvernement, elle s'est employée à réduire la revendication antipatriarcale de l'antisexisme. Elle a centré son intervention sur les sujets sociétaux, le mariage homo, la parité homme-femme dans les hautes fonctions, et cela pour détourner l'attention de la question sociale. Il y a eu un gros événement qui a été la disparition de l'URSS et de son bloc de l'Est en 91. Les médias ont déversé toute une propagande qui proclamait que le communisme avait échoué. Il n'y avait plus de classe ouvrière. Toute idée de révolution était enterrée. Et le libéralisme a été présenté comme le stade ultime de l'histoire et s'est mondialisé. On a aussi constaté à l'époque un retour de l'ordre moral. La libération sexuelle, l'éducation anti-autoritaire de l'après-68 ont été critiquées. Il y a eu la pandémie de sida qui a incité à des relations sexuelles stables, à prendre des précautions dans les rapports sexuels. Le féminisme a été mal vu et les jeunes générations de femmes l'ont rejeté parce qu'elles craignaient d'être étiquetées hystériques, coincées sexuellement, et si elles s'en revendiquaient. Et enfin, il y a deux discours idéologiques d'importance qui se sont conjugués pour faire oublier la lutte des classes et la nécessité d'une révolution sociale. Le premier, le néolibéralisme, qui était porté par une droite réactionnaire, et le postmodernisme, qui était porté par une partie de la gauche au sens large. Alors, bon, le néolibéralisme, c'est une doctrine économique qui critique l'État-providence et qui prône la dérégulation des marchés. Il y a des politiques néolibérales qui ont été mises en œuvre par des dirigeants comme Pinochet au Chili, Thatcher au Royaume-Uni, Reagan aux États-Unis. Et ces dirigeants ont valorisé l'individu et le travail, la réussite individuelle, ils ont prôné le salaire au mérite, et les conditions d'existence des classes populaires se sont fortement dégradées. Thatcher s'est ainsi attaquée aux syndicats ouvriers, elle a mené une politique d'austérité. Mais dans le même temps, ces dirigeants néolibéraux ont fait l'éloge de la diversité, et Thatcher, par exemple, quand elle était députée du parti porte-parole du Parti conservateur et députée à la Chambre des communes, Elle a été un des seuls membres de ce parti à se prononcer pour le droit à l'avortement, c'était en 67. Le postmodernisme, lui, il a été porté par des mouvances intellectuelles auparavant contestataires. Elles ont abandonné l'idée de révolution, tandis que les institutions patriarcales cessaient d'être contestées comme dans les années 70. Alors, ce courant de pensée postmoderne, il a développé dans les universités, aux États-Unis et puis ailleurs, la critique du marxisme comme ayant débouché sur le stalinisme. Et il a élargi cette critique à tout grand récit ou projet de société qui a été soupçonné de déboucher forcément sur un nouveau totalitarisme. Il a rejeté aussi toute vision globale de l'histoire et toute analyse générale, et donc jeté aux oubliettes la lutte des classes. Ce courant, il accorde une grande importance aux structures, notamment linguistiques, et au modèle de pensée, d'organisation sociale, de comportement que ces structures déterminent, mais c'est en général pour en souligner le caractère instable et temporaire. La réalité serait précaire, plurielle, morcelée, parce qu'elle se confondrait avec les interprétations subjectives qu'on en fait. Et ce courant a affirmé aussi que le monde était désormais trop complexe pour que sa marche puisse être modifiée. Il a mis l'accent sur l'individu et sur ses émotions, en écartant la notion d'un sujet autonome, capable d'action, de choix conscients. Ainsi, il a contribué à dévaloriser tout ce qui relevait du discours de classe, de la solidarité, et il a critiqué l'universalisme. Or, on doit critiquer l'universalisme parce que, à partir des droits de l'homme abstraits, ce courant de pensée a imposé partout dans le monde des normes favorables à l'impérialisme occidental en présentant le colonialisme, le patriarcat comme légitime, bénéfique pour les peuples de couleur ou les femmes. Mais le féminisme et les mouvements anti-esclavagistes ou pacifistes, ils ont émergé au XIXe siècle dans le sillage de l'universalisme. Donc, au final, je pense que lorsqu'on parle de postmodernisme, il faut surtout pas oublier qu'il n'est pas né n'importe quand ni n'importe où. Certes, il s'est inspiré des travaux de penseurs français, ce qu'on appelait la French Theory, des travaux de Michel Foucault sur le pouvoir, de Jacques Derrida sur la déconstruction, de Jean-François Lyotard sur les grands récits. Mais il est apparu et il s'est développé aux États-Unis, donc dans le pays qui a régné en maître sur la planète, d'un point de vue économique mais aussi culturel, à partir des années 90. Alors, les dirigeants néolibéraux ou postmodernes ont fait miroiter aux classes populaires leur accession possible aux classes moyennes grâce à des études et à un travail assidu. Ces classes se sont développées à partir de cette époque et leurs valeurs imprègnent aujourd'hui nombre de sociétés qui ont pour caractéristiques l'individualisme, le consumérisme et le sécuritaire. La hiérarchie sociale y est non seulement acceptée, mais elle est valorisée, tandis que les inégalités entre les classes sociales sont toujours plus marquées. Il y a un nouveau féminisme qui a découlé du postmodernisme, avec les analyses intersectionnelles et la théorie queer. Ces théories se rattachent en effet à ce courant de pensée par l'importance qu'elles accordent à l'individu, au langage et à tout ce qui est construit. Et comme depuis le début du XXIe siècle, les universitaires qui portent ces théories sont devenus la nouvelle avant-garde intellectuelle. Leurs analyses ont peu à peu été adoptées dans les milieux militants de gauche, extrême gauche, libertaires, radicaux, écologistes, qui a favorisé des pratiques individuelles déconnectées des conflits de classe ainsi qu'une fragmentation des luttes sociales. L'exploitation économique a été reléguée parmi une quantité d'oppressions particulières à déconstruire individuellement dans la société existante. Et les classes populaires ont été délaissées au profit de minorités parmi lesquelles on range les femmes alors qu'elles constituent toujours la majorité de la population.
Spécialement dédicacée aux routières, aux cablières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscuitières, joaillières, téléphonistes, machinistes, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, ethnologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, fermières. Costumières, couturières, façonnières, gantières, lingères, ménagères, bichetières, secrétaires, romancières, aventurières, vas-y, continue la liste.
Pour moi, il y a trois idées du postmodernisme qui ont eu un impact sur la lutte contre l'oppression patriarcale. La première, c'est qu'on ne peut plus changer l'ordre établi. Elle a donné un féminisme libéral ou progressiste, mais en tout cas intégrateur et institutionnel. Car s'il n'y a pas d'alternative au capitalisme, mieux vaut rechercher une ascension sociale personnelle et mieux vaut lutter contre les discriminations, donc ce qui résulte des oppressions, plutôt que contre les institutions qui mettent en place et entretiennent les oppressions. La deuxième idée, c'est que la réalité est forcément fragmentée, relative, éphémère, et donc qu'il est vain de chercher à en avoir une vision globale. La valorisation de l'hétérogénéité, du flou et fluctuant, ça a conduit aux analyses intersectionnelles, à la multiplication des identités. Et troisième idée, c'est que le discours sur la réalité peut transformer la réalité. Cette idée-là, elle a accouché de la théorie queer et de son affirmation que si le discours sur la réalité fait la réalité, des énoncés performatifs doivent pouvoir déconstruire ou défaire cette réalité. Alors, Une présentation rapide là, des théories postmodernes. Le concept d'intersectionnalité, il est apparu aux États-Unis dans un article de la juriste afro-américaine féministe Kimberly Crenshaw en 1989. L'intersectionnalité, c'est l'étude des liens qui se nouent entre les différentes formes de domination et de discrimination. Cette idée d'une intersectionnalité des oppressions n'est pas critiquable en soi. Il y a une même personne peut-être et effectivement soumise à plusieurs dominations ou discriminations. N'importe qui peut constater très trivialement que dans cette société, il vaut bien mieux être un homme blanc, riche et bien portant qu'une femme noire, pauvre et invalide. Des féministes noires, à la fin des années 70, ont pointé à juste titre aux États-Unis les intérêts et préoccupations de leur classe sociale que des féministes blanches bourgeoises défendaient. Mais les militants et militantes révolutionnaires n'ont pas attendu les analyses intersectionnelles pour se battre en France ou ailleurs sur différents terrains en même temps, anticapitalistes, antipatriarcales, antiracistes, anticoloniales, etc., parce qu'ils et elles savent que l'exploitation de classe s'exerce encore plus fortement et durement quand elle s'accompagne d'oppressions, en particulier celles qui sont liées au colonialisme et au patriarcat. C'est pourquoi, par exemple, ce sont des femmes d'origine immigrée qui connaissent les pires conditions de travail et d'existence. Donc, ce n'est pas l'idée d'intersectionnalité en elle-même qui est problématique, d'après moi. C'est plutôt l'usage qui en est fait dans le contexte d'un capitalisme triomphant. Parce que la multiplication des identités, elle a entraîné une atomisation de la contestation et des pratiques militantes qui sont loin d'être révolutionnaires. Ces pratiques, elles ont été critiquées par différentes personnes. Moi, j'en ai parlé dans Oval Féminisme, mais particulièrement la militante trotskiste Aurore Koechlin, dans son livre La Révolution Féministe, elle en a dressé un tableau pour avoir vécu une expérience dans un groupe intersectionnel. Pour les résumer, les analyses intersectionnelles ont entraîné une réduction du système d'oppression à des rapports individuels et en conséquence, la critique de l'organisation sociale s'est réduite à la critique des normes sociales. Et l'oppression a été remplacée par le concept de privilège dont jouissent des individus selon les critères de race, genre, niveau d'études, âge, validité, etc. et classe. Plutôt que de s'attaquer aux institutions patriarcales, on dénonce ainsi l'attitude de l'homme blanc hétéro aisé. En outre, les privilèges sont tenus pour équivalents. Un privilège validiste est par exemple mis au même niveau qu'un privilège classiste, alors qu'une personne valide n'exploite pas un invalide, comme un bourgeois exploite un prolétaire, ou comme le capitalisme exploite le prolétariat. Dénoncer des attitudes sexistes ou classistes, donc le fait d'individus, plutôt que des institutions qui en sont responsables, ça permet de laisser bien en place le système de domination masculine et le capitalisme. D'autre part, comme l'objectif est de changer les personnes une à une, plutôt que les structures sociales, au lieu de s'attaquer aux processus sociaux globaux, on vise une déconstruction individuelle et la constitution d'espaces safe dans lesquels aucune oppression n'existerait. Et comme il y a un oubli de la lutte des classes, ou une minorisation de celle-ci, en général au profit de la race ou du genre, on raisonne à l'échelle individuelle en termes de dominants et dominés ou victimes. Dans cette logique, les femmes blanches sont considérées comme l'instrument de la domination, même si ce sont des ouvrières ou des lesbiennes. Et pourtant, toutes les blanches ne sont pas bourgeoises et toutes les bourgeoises ne sont pas blanches. Et puis on en arrive à une course absurde aux discriminations, aux oppressions, étant donné que la personne la plus discriminée ou la plus opprimée sera mécaniquement celle qui aura le plus de pouvoir dans un groupe. Qui plus est, les dominés ou victimes sont proclamés infaillibles et leur parole ne peut donc pas être mise en doute, alors que plusieurs personnes peuvent parfaitement subir la même discrimination sans pour autant avoir le même avis dessus. Et alors que de toute façon, elles ne détiennent pas la vérité avec un grand V concernant cette discrimination. Alors, il découle de tout cela une forte moralisation du champ politique, sur la base d'une culpabilisation des personnes pour telle ou telle domination qu'elles peuvent exercer. Et l'unique attitude autorisée pour les dominants politisés, donc les militants en général, c'est d'être des bons alliés, autrement dit de se taire et de suivre la ligne politique dictée par les victimes, dites premières concernées. Il ne s'agit pas tant de convaincre, souvent sur un mode rationnel et politique, que d'imposer son ressenti et de réduire au silence des personnes qui ne sont pas d'accord avec. Et enfin, la perte de toute vision d'ensemble et l'importance qui est donnée à la déconstruction individuelle nuisent à l'action militante sur le terrain social. L'influence des théories postmodernes a entraîné un désintérêt croissant de la gauche pour les classes populaires. La référence historique et théorique que représentait le monde ouvrier et la nécessité de la lutte anticapitaliste ont été reléguées au second plan, voire oubliées. C'est pourquoi on a pu voir des militantes et des militants dits progressistes, voire révolutionnaires, porter au moins dans un premier temps un regard parfaitement effaré, plein de suspicions sur le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Mais déjà en 2005, la révolte des banlieues avait suscité encore plus de rejet de leur part. Alors, la théorie queer. Queer, ça signifie bizarre, tordu en anglais. Il y avait un petit courant portant ce nom qui était apparu aux États-Unis à partir des années 80. Et un groupe qui s'appelait Queer Nation et s'est constitué au sein de DACT UP, l'association créée donc pour lutter contre la pandémie du sida. Et ce groupe s'opposait à toute forme d'exclusion, d'oppression, il prônait la révolution. Et de ce fait, il critiquait la soif de respectabilité de certains gays et la revendication de droits par la communauté homosexuelle. Mais c'est avec Trouble dans le genre, de le livre de la philosophe Judith Butler, qui est sorti en 90, que s'est développé dans les universités américaines ce qu'on appelle la théorie queer, selon l'expression utilisée par la philosophe Teresa de Lauretis en 90. Troupe dans le genre, c'est un ouvrage réputé et difficile à comprendre. J'en ai retenu trois idées. Pour Butler, le sexe serait déjà du genre, c'est-à-dire une construction culturelle élaborée à partir du langage et de la répétition. Et on a là, pour moi, une déformation, une mauvaise interprétation de la formule de Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe, quand elle dit « on n'est pas femme, on le devient ». Parce que Beauvoir, elle n'a jamais dit que le sexe biologique n'existait pas. Elle disait que le rôle social imposé aux femmes se construisait à partir de leur sexe biologique et qu'il fallait supprimer ce rôle social, pas le sexe biologique. Pour Butler, d'autre part, la binarité des sexes n'existe pas. Il n'y a pas deux catégories cohérentes et immuables, les hommes et les femmes. Et de ce fait, le sujet à libérer, ce n'est plus les femmes, mais plutôt une coalition de groupes socialement exclus, les minorités sexuelles ou de genre, gays, lesbiennes, trans. Et enfin, pour Butler, ces minorités pourraient modifier leur vécu par le langage et par des performances, comme en font les drag queens. Pourtant, le travestissement, la parodie, l'ambivalence ne sont pas forcément subversifs. On voit avec les carnavals qui existent depuis des siècles et des siècles et qui ne troublent pas vraiment l'ordre établi. Ils servent plutôt de soupape. Et de plus, l'affirmation selon laquelle le discours sur la réalité produit cette réalité, pour moi, il est faux. Par exemple, quand on dit « je vous déclare unis par les liens du mariage », ces mots, ils ne rendent le mariage réel que s'ils sont prononcés dans une mairie ou une église par un curé ou un maire et par des personnes précises. Donc, parce que s'ils sont dits sur une scène de théâtre par des acteurs ou s'ils sont dits dans un repas entre amis, ils n'ont pas du tout de valeur. Mais un courant donc queer issu de l'université s'est inspiré de troupes dans le genre pour s'intéresser au pouvoir, à la sexualité, particulièrement au sadomasochisme, à la prostitution, à la pornographie, diverses déviances sexuelles, et à la déconstruction individuelle. Il dénonce à juste titre l'hétérosexualité obligatoire, mais il ignore la division genrée du travail, l'exploitation domestique. Et ça parce qu'il n'analyse en rien en termes de rapports sociaux, il n'a pas d'objectif politique particulier, il est surtout dans une posture d'opposition aux normes. Et ce courant queer issu de l'université, il reprend les trois idées de Butler que j'ai rappelées, c'est-à-dire qu'il affirme comme Butler que les catégories hommes et femmes ne correspondent pas à la diversité humaine, il y aurait un continuum de genre. Et pour dire ça, il s'appuie sur l'existence des personnes intersexes, donc les personnes qui présentent des caractéristiques sexuelles atypiques sur le plan des chromosomes, des hormones, des organes génitaux, en général à la naissance. Mais ces personnes sont vraiment peu nombreuses. Elles seraient, selon le Conseil de l'Europe, 1,7% des naissances. Et le plus souvent, elles désirent choisir d'être un homme ou une femme. Elles ne prétendent pas créer une nouvelle catégorie. D'autre part, le queer universitaire utilise, comme Butler, les minorités qui refusent le rôle social associé à leur genre pour dire qu'on a le libre choix de ce rôle et qu'on peut le subvertir, ou que c'est une essence propre à chaque individu, indépendamment de son corps. Ce serait une identité innée, immuable, car on aurait toujours senti être homme ou femme. Ce serait donc pas l'appartenance à la catégorie homme ou femme qui déterminerait si on subit l'oppression patriarcale ou si on en bénéficie, mais le genre auquel on s'identifie, et c'est une identité autodéfinie de façon positive. Et ainsi, le queer universitaire en arrive à définir une femme ou un homme sur la base d'un ressenti. L'ennemi pour lui, c'est le ou la cis, c'est-à-dire une personne dite en conformité avec son genre, quelle que soit la classe sociale à laquelle elle appartient. Et de cette façon, une ouvrière n'est pas mieux considérée qu'un bourgeois ou une bourgeoise si elle est cis. Et enfin, le queer universitaire accorde, comme Butler, une grande importance au langage et l'utilise dans le sens qui l'intéresse. Avec le queer, les mots changent ainsi de sens en étant amalgamés à d'autres. Ils deviennent prédominants ou au contraire, ils tombent aux oubliettes pour transformer la réalité. Par exemple, opérer un amalgame entre sexe et genre et puis faire dériver le genre d'un rôle social à une identité dont on peut acquérir les accessoires sur le marché, ça permet d'affirmer qu'on peut changer de sexe. Mais c'est l'histoire du mot trans qui illustre pour moi le mieux l'utilisation du langage par le queer. Parce que j'ai dit, donc, dans les années 70, on parlait en France de travesti et de transsexuel. Puis le mot travesti a été mis de côté. On a parlé de transgenre et de transsexuel. Ensuite, on a évacué le terme transsexuel, qui était jugé pathologisant par des instances telles que le Conseil de l'Union européenne en 2010. Et trans est alors devenu synonyme de transgenre. Dans le même temps, aux États-Unis, on utilisait les termes « female to male FTM » et « MTF »« male to female » qui renvoyaient encore au sexe biologique. Mais après, on leur a préféré « trans-homme », donc « femme transitionnant homme » et « trans-femme », »,« homme transitionnant femme ». Et puis les termes recommandés sont devenus « femme trans » et « homme trans ». Et à présent, on nous dit d'une part qu'il n'y a pas des femmes et des trans, mais un ensemble femmes qui comprend des cis et des trans. Et on peut trouver cette affirmation dans des textes gouvernementaux en France, comme dans plein d'endroits. Et d'autre part, on nous dit qu'il faut utiliser le seul terme « trans » pour ne plus distinguer les trans-femmes et les trans-hommes. Mais souvent, quand on mentionne les trans, il est question plutôt des trans-femmes. Les trans-hommes passent assez facilement à la trappe, comme souvent les lesbiennes sont effacées par rapport aux gays, les femmes par rapport aux hommes. Et donc là, pour moi, on retrouve un reflet de la classique domination masculine. Et enfin, le trans est valorisé, contrairement au cis, qui lui est opposé. Alors, au final, je trouve qu'il est assez difficile de préciser les contours de la théorie queer, parce qu'elle ne repose sur aucune donnée concrète et que son jargon est assez hermétique. Et puis, quiconque se déclare queer est queer. Ça permet à n'importe qui, quelle que soit son apparence ou son milieu social, de se définir ainsi et éventuellement d'acquérir du pouvoir par ce biais dans des milieux dits radicaux. Quelles sont les conséquences de ces théories sur la lutte antipatriarcale? Pour moi, il y en a plusieurs, quatre au moins. Si on peut choisir, d'abord, si on peut choisir librement son genre, comme le dit la théorie queer, et si le sexe biologique n'est plus à prendre en compte, il n'y a plus d'oppression spécifique des femmes. On ne comprend plus sur quoi repose la domination masculine et on ne peut donc plus lutter contre. De plus, la définition queer d'une femme renforce les stéréotypes sexuels. Au lieu de continuer à dénoncer le sexisme des vêtements, des jouets, On nous affirme que si un garçon aime se maquiller, porter une jupe, s'amuser avec une Barbie, ou encore s'il se montre émotif et sensible, ça prouve qu'il est une fille. Autrement dit, on réenchaîne les femmes à une caricature de la féminité et au rôle attendu d'elles. Et cette définition sur la base d'un ressenti, elle est réservée aux femmes, parce que dans un autre registre, nul n'ose prétendre qu'un blanc est un noir parce qu'il se sent noir. Donc ce raisonnement, pour moi, il est aberrant, et je pense qu'il l'est pour toute femme qui refuse de se conformer aux stéréotypes sexuels et au rôle social attendu des femmes. Deuxième conséquence des théories postmodernes, si on oublie le sexe biologique, si on ne remet plus en question les rôles sociaux différenciés selon les sexes, sur quoi peut se construire un mouvement féministe ? Les femmes ne peuvent s'unir que sur des sujets qui les concernent toutes, par-delà leurs différences de classe sociale, à savoir leur vécu commun lié à l'oppression patriarcale. Or, pour intégrer les transfemmes dans la catégorie femmes, les féministes postmodernes entreprennent trop souvent, dans un souci de bienveillance, de réécrire ce vécu commun féminin de deux façons. D'une part, en écartant les questions qui concernent la sexualité féminine et la procréation, la contraception, l'avortement, au prétexte que ces questions seraient excluantes. Et d'autre part, en réduisant l'oppression féminine au harcèlement, aux violences sexuelles, à la discrimination au travail ou à l'inceste, pour pouvoir dire que le vécu des transfemmes est le même que celui des femmes. Or, s'il est vrai que des hommes, souvent jeunes, voire des garçonnets, peuvent malheureusement subir eux aussi certaines de ces violences ou cette discrimination, ils n'ont pas pour autant la même histoire que les femmes. Occulter le sexe biologique fausse complètement la donne. On oublie que la reproduction de l'espèce dépend toujours des femmes et que les gouvernants visent toujours à contrôler leur sexualité et leur capacité reproductive, ce qui les conduit à promouvoir telle ou telle politique nataliste selon les époques. On oublie que c'est ce qui vaut aux femmes depuis des siècles d'être surveillées, enfermées, battues, tuées, etc., quand elles cherchent à se rebeller contre leur sort. On oublie que c'est la raison pour laquelle l'accès à l'avortement ou le maintien de ce droit à l'IVG nécessite partout dans le monde de véritables mobilisations sociales. Aujourd'hui, on assiste à une régression aux États-Unis par rapport à ce droit. Il est menacé en Russie. Il est toujours refusé dans de nombreux autres pays. Et on oublie enfin des spécificités réjouissantes féminines telles que les féminicides, l'excision et puis l'assignation des femmes aux tâches ménagères dès l'enfance. Une autre conséquence de la théorie queer, c'est l'acceptation de l'autodéclaration de genre et de la non-binarité des genres par un nombre croissant d'États. Or, ce choix politique a des répercussions sur les droits des femmes. Dans mon livre, j'ai fait le point, autant que faire se peut, sur les législations dans le monde qui concernent les transitions et la transidentité. Transidentité, c'est défini comme un ressenti d'identification à un genre différent de celui qui est assigné à la naissance. Alors, ici, je rappellerai juste quelques données à leur sujet pour en venir aux effets sur les droits des femmes. Aujourd'hui, une transition elle est possible dans pas mal de pays sous une, deux ou trois formes. Elle peut être sociale, il n'y a aucune déclaration à l'administration, on change juste de prénom et de pronom pour son entourage. Elle peut être légale, il y a un changement de prénom et de sexe à l'état civil, mais pas de changement physique. Et puis elle peut être médicale, par une prise d'hormones suivie ou non d'opérations chirurgicales. Actuellement, il y a une vingtaine de pays qui acceptent le changement de genre à l'état civil sur simple déclaration. Parmi eux, il y a la Suède, l'Argentine, le Danemark, la Norvège. D'autres pays acceptent le changement de genre à certaines conditions, comme en France, il faut demander l'avis d'un juge des affaires familiales. En France, c'est la loi du 18 novembre 2016 qui a rendu possible le changement de sexe à l'état civil sans intervention chirurgicale. Avant, c'était la condition. La mastectomie, donc l'ablation des seins, elle est autorisée pour une fille dès 14 ans avec accord parental. Les bloqueurs de puberté sont prescrits sur ordonnance avant 16 ans avec accord parental. Le traitement hormonal substitutif, il est prescrit avec accord parental avant 18 ans. La sécurité sociale rembourse les frais médicaux liés à une transition. Et enfin, la circulaire Blanquer du 29 septembre 2021 a imposé dans l'éducation nationale l'accès des trans aux espaces non mixtes filles ou garçons dans les vestiaires, les dortoirs, les toilettes des établissements scolaires pour lutter contre la transphobie. Nombre de gouvernements dans le monde accompagnent la transidentité de trois façons. D'une part, en inscrivant peu à peu la transidentité dans leur législation. Donc, en France, le Parlement débat toujours de l'introduction à l'état civil d'une mention sexe neutre ou troisième genre. Sinon, les États accompagnent la transidentité en reconnaissant le désir de transformer son corps par des thérapies hormonales ou des interventions chirurgicales. Et dans certains États, en faisant prendre en charge leur coût par des organismes de sécurité sociale. Et troisième façon de l'accompagner, c'est en intégrant les transfemmes dans les espaces non mixtes femmes, tels que les refuges pour femmes battues, des vestiaires de sport, d'établissements scolaires, d'entreprises, des établissements pénitentiaires ou encore les compétitions sportives féminines, et en sanctionnant par une suppression de subventions ou par des amendes les associations ou les organismes qui se montrent réticentes à cette intégration. En fait, il est très difficile d'avoir des chiffres précis concernant le nombre de trans dans un pays, puisqu'on peut se dire trans sans changement physique apparent et sans déclaration à l'état civil. En France, en 2021, d'après le ministère des Solidarités et de la Santé, l'ensemble trans était évalué entre 20 000 et 60 000. Donc, on voit que c'est une fourchette très, très large. Mais en fait, ce qu'on sait en tout cas, c'est que la demande de transition est en hausse sous ces trois formes et qu'elle a augmenté particulièrement chez les adolescentes ces dernières années. Elles semblent soudain désireuses de changer leur corps pour qu'ils correspondent à leur identité de genre. Et souvent, c'est après avoir découvert la transidentité en groupe sur les réseaux sociaux. Ce phénomène, il est observable dans divers pays. Et du coup, il a incité récemment des gouvernements à reconsidérer les transitions de genre pour les mineurs. En particulier la Suède, qui avait été le premier pays à reconnaître la transidentité en 72, je crois. Elle a interdit en 2022 l'hormonothérapie pour les mineurs et en 2023 les mastectomies sur les adolescents. Mais l'autodéclaration de genre et l'affirmation que les genres ne sont pas binaires posent quelques problèmes aux législateurs. Dans mon livre, j'ai cité un article qui en fait état. Il est écrit par une prof de droit public qui s'appelle Olivia Buick-Swan, et qui est intitulé « Le droit au défi des identités de genre ». Je le résume ici parce qu'il donne une idée de ce que pensent les juristes sur la question aujourd'hui en France. Cette prof, donc juriste, constate que l'autodéclaration de genre et l'affirmation qu'il existe plus de deux catégories humaines, ça entraîne un télescopage entre les droits des femmes et les droits des trans, notamment sur la question d'inscrire dans les législations un sexe neutre ou troisième genre, et sur la question d'ouvrir les lieux non mixtes femmes aux transfemmes. Concernant le sexe neutre, elle remarque que des États comme l'Australie ou l'Inde ont déjà intégré cette mention à l'état civil. Et tout en relevant que pour la grande majorité des trans, le choix du neutre est assez rare, elle préconise de prévoir à l'état civil quatre cases, femmes, hommes, neutres, et ne se prononce pas. Cette prof de droit public, elle note également que si disparaissent ce qu'elle appelle les dispositifs juridiques sexo-spécifiques mis en place concernant les femmes, par exemple la parité homme-femme, des choses comme ça, les femmes sont invisibilisées. Alors qu'à l'inverse, quand on parle de féminisation des fonctions ou d'écriture inclusive, c'est censé promouvoir l'existence des femmes. Cette prof, elle reconnaît aussi que les expressions « personne qui accouche » ou « personne à vulve » qu'on entend maintenant dans la sphère publique pour désigner les femmes, elle contribue à les invisibiliser. Mais elle trouve à ces expressions une dimension inclusive. Et enfin, concernant les établissements pénitentiaires, elle estime qu'il faut mettre les transfemmes dans le quartier des femmes, les transhommes dans le quartier des hommes, parce que créer un troisième quartier pénitentiaire pour les trans serait stigmatisant. De nos jours, je pense qu'il y a peu de personnes qui saisissent vraiment l'importance des enjeux politiques et financiers qu'il y a derrière la transidentité. On sourit devant la mode du queer, il y a un lexique en soi avec 76 identités qu'on trouve sur Internet et qui est repris jusque dans les cours de récré. Mais dans le même temps, le mot sexe est remplacé par genre un peu partout, dans les manuels scolaires comme dans les textes de loi, et on voit se banaliser des formules telles que l'assignation à la naissance d'une personne ou alors une personne née de sexe masculin ou féminin. Il y a des anecdotes qui circulent aussi, qui font assez facilement sourire. Par exemple, il n'y a pas longtemps, une trans femme a voulu, en France, consulter un gynéco, et elle s'est heurtée à son refus, parce qu'il a dit qu'il était incompétent à s'occuper des hommes. On sourit quand on apprend qu'au Royaume-Uni, les services de santé, en se fiant au sexe déclaré dans les dossiers médicaux, envoient à des trans femmes une convocation pour un frottis, ou qui n'invite plus des trans hommes à un dépistage du cancer du sein. Mais il ne faut pas perdre de vue que les théories postmodernes présentent deux avantages pour les gouvernants, parce que si ce n'était pas le cas, elles ne seraient pas autant soutenues aujourd'hui par une bonne part de la classe politique et des médias. Elles présentent l'avantage, d'une part, que l'affirmation identitaire constitue un formidable marché pour le capitalisme. La transidentité en particulier, à la fois pour l'industrie pharmaceutique et pour les cliniques du genre, et les autres antennes de CHU spécialisées dans la réassignation de genre que l'on voit se multiplier. Et d'autre part, comme je l'ai dit dans mon introduction, les mouvements féministes ou LGBT, et plus largement le camp censé contester l'ordre établi, se déchirent sur bien des sujets en rapport avec les théories postmodernes. La race ou le voile, le travail du sexe, le nouveau nom de la prostitution, ou encore la définition queer d'une femme pourrissent bien le climat dans ces milieux. Et puis de drôles de pratiques s'y développent, comme du cyberharcèlement pour faire taire des personnes dites TERF ou réac, pour obliger des lieux non mixtes femmes à accepter les transfemmes, pour obliger des lesbiennes à coucher avec des femmes à pénis. Et enfin, une dernière conséquence non des moindres des théories postmodernes, c'est qu'elle contribue largement à faire oublier la hiérarchie sociale, les profondes inégalités qui existent entre les classes. Avec l'évolution des mentalités qu'ont entraîné les théories postmodernes, la gauche, au sens large, s'est en effet désintéressée des classes populaires et donc de la réalité sociale des femmes qui appartiennent à ces classes. Alors, toujours dans mon livre, je me suis efforcée de faire ressortir cette réalité dans trois chapitres, qui sont consacrés respectivement aux inégalités professionnelles hommes-femmes, aux coordinations féministes et à la GPA, parce que pour moi, dénoncer le rôle social inculqué aux femmes est plus que jamais d'actualité. Parce que dans les catégories ouvriers et employés répertoriées en France par l'INSEE, les femmes sont majoritaires. Ces catégories représentent toujours la majorité de la population. Et parce que ce sont en majorité des femmes qui occupent les emplois les plus mal payés, les plus précaires, avec des temps partiels contraints et des horaires éclatés. Et puis parce que, dans leur très grande majorité, les familles monoparentales, ce qu'on appelle comme ça, sont composées d'une femme avec enfant. Et en France, une famille sur quatre est monoparentale, paraît-il. Alors certes, les études qui portent sur les inégalités hommes-femmes, elles abondent. Il en sort chaque année à l'occasion du 8 mars. Et on entend alors une bonne part de la classe politique déplorer ces inégalités. Les inégalités qui sont pointées par ces études, elles sont réelles. Elles existent sur de très nombreux plans, les salaires, l'évolution professionnelle, la représentation politique, les tâches domestiques, les violences conjugales, enfin bon, plein de choses. Alors que les femmes sont, par exemple, globalement plus diplômées que les hommes depuis des années. Ces études sur les inégalités hommes-femmes aussi, elles recensent bien les facteurs qui contribuent à maintenir ces inégalités. Il y a la non-mixité des métiers et le fait que ces métiers sont hiérarchisés, ils sont classés et plus ou moins valorisés selon qu'ils sont masculins ou féminins. Il y a le fait que il y a le poids du rôle maternel dans le travail des femmes. Il y a les préjugés sexistes des employeurs, les politiques étatiques genrées ou encore le partage inégal du patrimoine familial. Mais en revanche, les auteurs de toutes ces études, là, ils se penchent assez peu sur la situation des femmes en fonction de leur classe sociale. Or, les inégalités entre les sexes ne touchent évidemment pas de la même façon toutes les femmes. Même si les femmes des classes supérieures gagnent moins que les hommes de ces classes, elles peuvent arriver à vivre plus ou moins comme eux, en payant par exemple d'autres femmes, voire des hommes, pour effectuer les tâches ménagères, pour s'occuper de leurs enfants. Mais dans le même temps où certaines femmes accèdent au sommet d'un État ou d'une entreprise, en France et ailleurs, la majorité des femmes restent dévalorisées et largement exploitées. Et pour moi, il y a un exemple, un secteur économique particulièrement, qui illustre particulièrement bien cette réalité, c'est le CARE. Dans ce secteur économique, on range les métiers du soin, du lien et du nettoyage. Ils constituent donc une sorte de prolongement caricatural du travail réalisé par les femmes dans la sphère privée, par la plupart des femmes. Et ce secteur, il est en pleine expansion, étant donné notamment le vieillissement des populations et la demande croissante de services à la personne. Pourtant, les féministes postmodernes ne semblent guère se soucier que ces métiers reviennent aux femmes. Il y a un peu, je pense que les écoféministes auront un peu tracé la voie en s'extasiant devant les qualités naturelles des femmes que serait leur dévouement à autrui, leur gentillesse et leur empathie. Mais bon, cette vision essentialiste, en tout cas, elle ne peut que réjouir les gouvernants parce qu'elle renforce l'idée que les femmes doivent continuer d'être largement orientées vers ces métiers et continuer de les exercer. Et enfin, le rôle attribué aux femmes dans la sphère privée, il a guère été modifié. La plupart d'entre elles restent donc confrontées à une double journée de travail, même s'il y a une participation grandissante de certains hommes à l'élevage des enfants ou encore un peu aux tâches ménagères. Donc, pour moi, pour apprécier vraiment les inégalités entre hommes et femmes dans un pays, dans le monde, on doit en faire une lecture de classe et ne pas raisonner comme si les catégories hommes et femmes constituaient des ensembles homogènes. Il faut prendre en compte les classes sociales qu'elles renferment. Dernière partie. J'essaye de voir un peu quelques pistes, comment on pourrait contrebalancer les effets des théories postmodernes sur le genre. Pour moi, je pense qu'il y a tout un travail d'information à faire sur le rôle que joue le nouveau féminisme dans le maintien de l'ordre établi. C'est-à-dire qu'il faut dénoncer les illusions qu'il entretient. Prôner le développement d'espaces safe dans la société existante, par exemple, pour assister et mettre à l'abri des victimes. Je ne trouve pas que ce soit une bonne façon de les aider. Je pense qu'il vaudrait mieux s'efforcer de favoriser leur autonomie, les soutenir autrement. D'autre part, je pense qu'il faut relancer la critique et la lutte contre l'éducation genrée, contre les jouets sexués. Pour en finir avec la domination masculine, il faut continuer de s'attaquer aux normes sociales, mais surtout aux rôles sociaux inculqués aux femmes et aux hommes. Moi, je comprends vraiment sans peine que les stéréotypes sexuels, les rôles sociaux imposés aux femmes et aux hommes provoquent un mal-être individuel, et qu'une transition puisse apparaître à des personnes comme la solution à ce mal-être. Mais je ne crois pas, en revanche, qu'on puisse régler les problèmes que posent au niveau social les stéréotypes sexuels et plus largement les rôles sociaux différenciés en recourant à des traitements hormonaux et des opérations chirurgicales.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Côtes Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.